Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et d'ailleurs son imbrication avec la société. Justement aujourd'hui, je voulais que l'on revienne sur un duo de réalisateurs incontournables dans le 7e art, Éric Toledano, Olivier Nakache. C'est à eux que l'on doit notamment le succès d'Intouchables.
Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz?
Moi, si je connais Berlioz, vous connaissez qui là-bas? Quel bâtiment?
Non mais mon vieux, Berlioz, avant d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre, écrivain et critique du 19e.
C'est une vanne. Je sais qui c'est, Berlioz.
Et alors qu'ils sortent leur première série disponible sur Arte, on a voulu s'intéresser au côté sociétal de leur cinéma. Hors normes avec des autistes, Samba sur l'histoire d'un sans-papier ou Intouchables avec ce duo handicapé jeune de banlieue. Comment faire de la comédie en traitant de sujets sociétaux? On vous raconte ça dans un instant. 14h30, les films de ma vie, c'est François Morel qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust, mais version cinéma. Alors par exemple, quel est son premier souvenir de cinéma?
Et sa bouillabaisse. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse?
C'était des boîtes.
Des boîtes? Sa bouillabaisse? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez.
Voilà, pour découvrir les autres réponses de François Morel, rendez-vous à 14h30. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis sur vos plateformes et en DVD-VOD. Au programme cette semaine, The Dig, qui arrive sur Netflix, adapté du roman de John Preston. Nous débattrons aussi des vétos sur OCS, avec Clovis Cornillac notamment, de La Bonne Épouse portée par Juliette Binoche sur MyCanal et de The Personal History of David Copperfield sur Prime Video, adapté bien sûr du roman de Charles Dickens. Voilà pour le programme de Clap, votre émission cinéma. Et d'abord donc place à notre récit consacré au cinéma d'Éric Toledano et Olivier Nakache.
Europe 1. Le récit.
Revenons d'abord sur la rencontre entre Éric Toledano et Olivier Nakache. Ils ont une vingtaine d'années, ne sont pas encore vraiment formés à la réalisation, mais ils partagent une passion commune et un rêve, faire du cinéma. Écoutez-les en parler au micro d'Europe 1 à l'occasion de la sortie du film Nos Jours Heureux.
On s'est rencontrés dans une association qui faisait partir des gamins donc l'été, et le hasard a même voulu qu'on ait poussé le bouchon jusqu'à tourner le film dans un lieu où on a été nous-mêmes directeurs de colo. Comme ça, c'est le producteur qui a eu cette idée. Il a dit, ça va vous réveiller les idées, ça va en plus vous donner un sentiment très étrange et à mon avis fructueux pour le film. Vous allez tourner dans ce lieu-là, et il s'est battu pour qu'on ait cette colo-là en Charente.
Nos Jours Heureux qui était d'abord un court-métrage titré « Ces Jours Heureux ». Mais revenons dans les années 90, alors que le duo aime déjà sentir son époque. Ils écument les caves de stand-up qui se multiplient ces années-là et rencontrent rapidement Gad Elmaleh et Jamel Debbouze qui débutent. Avec eux, ils tournent un court-métrage, Les Petits Souliers, l'histoire de quatre copains juifs et arabes qui se voient proposer la veille de Noël un boulot de Père Noël à domicile.
Je suis Jean-René Taïeb, responsable animation à Prestimagique. Alors Noël, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est avant tout Noël, famille,
famille,
bonheur,
bonheur,
Père Noël,
le Père Noël.
Vous allez être l'élément central de cette soirée car les Pères Noël, c'est vous.
Le film est sélectionné au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, un tremplin pour ces jeunes réalisateurs. Alors, tout en poursuivant leur projet de faire du cinéma, Toledano et Nakache travaillent pour la chaîne Comédie. C'est là qu'ils rencontrent Jean-Paul Rouve, qu'ils feront tourner dans leur premier long-métrage « Je préfère qu'on reste amis ». Pour lui donner la réplique, un certain Gérard Depardieu.
J'arrive !
Je ne dérange pas, j'espère.
Non, non, pas du tout, je t'en prie, entre.
Non, je suis très pressé. Tu peux pas me rendre un petit service?
Ah bah écoute, ça dépend, je sais pas là, est-ce que j'ai rendez-vous ce soir?
Écoute, moi aussi j'ai un rancœur. J'ai rencontré hier sur internet, je suis tombé sous charme, une bombe. Alors c'est bon pour ce soir?
Non, justement, c'est ce que je te disais, ça va être un petit peu compliqué ce soir, mais alors demain si tu veux.
Je savais que je pouvais compter sur toi.
Non mais attends, qu'est-ce que... Voilà, non.
Je te revoirai ça.
330 000 entrées dans les salles françaises, on est encore loin de leur succès à venir, mais c'est un début. Le duo se dit alors qu'il va raconter ses expériences, les sujets qui le touchent, à commencer donc, on l'entendait tout à l'heure, par les colonies de vacances. C'est ainsi que fin juin 2006 sort Nos Jours Heureux.
Je me suis quand même rappelé que sans cette colonie, il y a 15 ans, j'aurais jamais rencontré celle qui partage ma vie aujourd'hui.
Putain, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu me chies dans les bottes, Vincent.
Non, mais je l'ai déposé, t'étais en retard.
En retard? Tu sais qu'on a eu du bol de pas se faire enlever la voiture, hein?
Arrête, enfin, chérie, ça va pas ou quoi? Elles sont les clés de voiture?
Elles sont dans ton cul!
1 500 000 entrées, ça y est, le succès est au rendez-vous, avec d'ailleurs dans le film un certain Omar Sy, début d'une longue collaboration. Omar Sy raconte, Eric et Olivier fonctionnent comme un dragon à deux têtes, ils forment une entité, ils sont différents dans la vie, chacun a sa personnalité, mais dans le travail, ils forment un binôme ultra équilibré et complémentaire. C'est ce binôme qui, 2 ans plus tard, sort tellement proche, encore une comédie, mais qui cette fois raconte la famille au sens large.
Nous en partie des parents qui pensent que c'est très très important que les enfants...
Qui pensons. C'est Catherine et moi.
Oui, bah oui, mais c'est les gens qui pensent.
Des fois, on se chamaille.
on se cherche.
On se cherche pour rigoler.
On s'adore, hein.
On s'adore.
Mais c'est en 2012 qu'Olivier Nakache et Eric Toledano réalisent Un coup de maître, adapté le livre de Philippe Pozzo di Borgo pour réaliser Intouchable. L'histoire d'une rencontre entre un jeune de banlieue et un bourgeois handicapé.
Bon, Philippe, je vais pas rester déjeuner.
Pourquoi ?
Je vous laisse pas seul. Hein. Je crois que vous avez un petit rendez-vous. Là.
Petit rendez-vous ? Comment ça ?
Paniquez pas, ça va bien se passer.
Non, mais...
En fait, embrassez-la bien fort pour moi.
Avec plus de 20 millions d'entrées, Intouchable dépasse le record détenu jusqu'alors par La Grande Vadrouille. Le duo a trouvé son filon, les comédies sociales, ou comment parler d'un sujet de société avec légèreté.
On savait que ce sujet était, il portait énormément de choses sans en connaître la portée, parce que encore une fois, je vous dis, il y a cette dose d'inconscience qui fait qu'on y va sans penser aux conséquences, sans penser est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'on va pas assez loin. Mais on avait l'impression que beaucoup d'humanité se dégageait de cette histoire, beaucoup d'espoir, et que si c'était bien fait, beaucoup de rire également, mais un rire d'une autre nature en fait. C'est quelque chose qui nous plaît profondément.
Mais pour comprendre le cinéma de Toledano et Nakache, il faut aussi revenir sur leur enfance. Eric Toledano, par exemple, grandit à Porchefontaine, un quartier ouvrier du sud-est de Versailles. Il le décrit comme un millefeuille social, ni bourgeois, ni populaire. C'est à eux qu'il veut s'adresser à travers son cinéma. Alors le duo n'hésite d'ailleurs pas à s'engager. En 2015, par exemple, suite à l'affaire du petit Elan, cet enfant retrouvé échoué sur une plage et dont la photo a fait le tour du monde, Eric Toledano prend la parole.
Je pense que cette photo, elle à un moment, elle invite à un retour à quelque chose d'humain et non pas à des choses un petit peu techniques de voilà les migrants, le problème des migrants. On doit revenir à ce sentiment-là. Donc oui, j'aimerais qu'on soit invité à être un petit peu plus dans l'humanité des choses, que derrière les statistiques ou des chiffres, on a essayé nous de personnaliser. C'est pour ça que le film s'appelait du prénom du héros.
Et justement, Samba, c'est le titre de leur film sorti quelques mois plus tôt, en 2014. L'histoire d'un sans-papier, interprété par Omar Sy, qui enchaîne les petits boulots. Le film comptabilise plus de 3 millions d'entrées, même s'il emballe un peu moins la critique qu'Intouchable.
Pardon, excusez-moi.
Oui ?
C'est ce que j'ai pas bien compris là. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours une OQTF, donc vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Vous pouvez partir, là.
Je peux partir, là ?
Oui, vous pouvez partir, vous êtes libre, mais vous êtes en situation irrégulière. Et vous avez l'obligation de quitter le territoire français, d'accord ?
D'accord, ok. D'accord, très bien. Ben j'y rentre chez moi, alors.
Voilà.
Ah, ben voilà, peut-être ça... L'avion, là, j'ai essayé de l'attraper, celui-là.
Voilà.
Attrapez mon avion ! Attendez-moi, je dois quitter, là !
Alors, vous allez me dire, oui, mais leur avant-dernier film, Le sens de la fête, ne parle pas de notre société, lui. Eh bien si, quand même, à travers la galerie de personnages qu'il met en scène, un marié complètement mégalo, un DJ ringard, un traiteur dépassé par les événements, un photographe spécialiste de l'argentique. Une nouvelle fois, le duo prouve qu'il est un fin observateur de notre société, qu'il caricature, et pourtant, on les aime, ces personnages que l'on moque. Là encore, ils sont allés puiser leur inspiration dans leur propre expérience, puisqu'eux-mêmes ont été serveurs dans des mariages.
Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos.
Pas du tout. L'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage.
Tu vois, c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Des smileys ça.
Ouais voilà, ça là, oui. Dès que la surprise du marié est terminée, on envoie. D'ailleurs garde un peu ton portable à la main, comme ça moi je t'appelle et je te dis go.
Ou juste un texto, hein.
Bien sûr, d'accord.
Le sens de la fête qui est multinommé au César. 3 millions d'entrées en France, 2 millions à l'étranger. Enfin, observons maintenant leur dernier film, Hors Normes. Là encore, un sujet de société, l'autisme, mais traité à travers le regard de deux associations, Le Silence des Justes et Le Relais.
Bon, Joseph,
Je te laisse ici et je reviens chercher exactement où est mon drap ce soir. On est d'accord ?
On est d'accord.
Bon. Alors maintenant, tu vas marcher jusqu'à l'atelier et là, tu vas demander à parler avec monsieur...
Marchetti.
Là, il va t'expliquer le travail et tu fais tout exactement comme il a dit.
Est-ce que je peux appuyer sur tous les boutons des machines à laver ?
Pas tous. Seulement ceux où monsieur Marchetti dit que tu peux appuyer. On va tout déchirer ?
Je vais tout déchirer.
Ben, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Hein.
Un film résolument social, leur film le plus engagé sans doute. Écoutez Reda Kateb qui joue l'un des gérants de l'une des associations qui vient en aide aux autistes.
En fait, il m'en reste une vraie tranche de vie. Quelque chose qui, après l'avoir tourné, vous fait changer d'une certaine manière. Je ne saurais pas dire en quoi, mais qui... dans lequel la matière de vie est plus puissante que la matière de cinéma. S'il est militant, c'est dans la proposition qu'il fait de pouvoir rencontrer ces gens-là et sûrement sortir de la salle avec un autre regard sur eux.
Quant à leur série, En thérapie, qui vient d'arriver sur Arte, elle raconte l'histoire d'un psychanalyste qui reçoit ses patients juste après les attentats du 13 novembre. Là encore, on est au cœur des questions qui agitent notre société. Alors justement, on a voulu savoir comment travaille le duo sur des sujets aussi délicats, comment il s'inspire de la réalité pour la transformer en comédie, mais sans jamais tomber dans la caricature ou la moquerie. Dans un instant, je reçois Stéphane Benhamou, fondateur de l'association Le Silence des Justes, qui accompagne les jeunes autistes. C'est cette association qui a inspiré le film Hors Normes. Rappelez-vous, Stéphane Benhamou était joué en quelque sorte par Vincent Cassel. Son témoignage dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, c'est dans une poignée de secondes sur Europe 1. Mais d'abord, on voulait écouter un extrait de la bande originale du film Hors Normes. Si je vous dis Captain Sensible, what?
Do his work, but the part of a man drove me berserk. He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gun full of you and I'm a feeling bad. But you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want?
Et pour continuer à parler du cinéma d'Éric Toledano et Olivier Nakache, je reçois maintenant Stéphane Benhamou, fondateur de l'association Le Silence des Justes, qui a inspiré l'histoire du film Hors Normes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être dans le studio de Clap. Alors dans le film, vous étiez joué, enfin, votre personnage inspiré de votre vie était joué par Vincent Cassel, on va en reparler. D'abord, première question, comment Éric Toledano et Olivier Nakache sont entrés en contact avec vous et surtout, est-ce que vous avez tout de suite accepté qu'ils racontent votre histoire ?
Non, ça s'est fait sur plusieurs années en fait. Ouais. Éric et Olivier, je les connais depuis très longtemps. Ils ont fait un petit premier clip en 1998, ça remonte très loin. C'était à l'époque, on avait une inclusion d'enfants autistes dans un séjour au ski. Et ils avaient fait un petit reportage entre les activités de montagne, les activités de vacances des enfants autistes. Et en même temps, les activités de soins qu'on avait sur la commune de Saint-Denis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Éric et Olivier. Ils sont intéressés, ils ont suivi du coup le parcours et l'évolution du Silence des Justes. Et donc, pour le film Hors Normes, on va dire que la première étape, c'était en 2015. En 2015, nous, on testait les voies de professionnalisation pour des jeunes adultes autistes. Ils sont venus me voir sur ces séjours. Et puis, ils ont vu plein de choses qu'ils n'avaient pas vues depuis 3-4 ans, peut-être depuis Intouchable. Et puis ils se sont dit, là, il faut vraiment qu'on en fasse un film. Il y avait un premier reportage sur Canal, un 26 minutes, qui les a convaincus, en fait, qu'il fallait maintenant montrer l'autisme. Et donc,
vous sentiez déjà, vous dites il y a 25 ans, quand vous les avez connus, qu'ils avaient cette fibre un peu sociale, sociétale, et que ça allait marquer leur cinéma ? Parce que si déjà il y a 25 ans ils s'intéressaient à une association comme la vôtre, on peut se dire que c'est déjà, c'était ancré un peu en eux.
Alors, je pense que c'est dans leur ADN de s'intéresser un petit peu à tout ce qui est, à tout ce qui leur semble, en tout cas, hors contexte et hors, hors norme. Je vais dire, je vais reprendre leur.
Le film porte
voilà,
bien son
en fait,
titre.
En fait, eux, ils débarquent dans un univers qui est aussi, pour moi à l'époque, quelque chose de hors du monde, hors de la vie. Hein. C'est un peu hors de la vie. Quand je rencontre l'autisme dans une colo, je me dis, comment ça existe? Et puis comment moi j'ai grandi? Et puis j'ai jamais vu d'autiste. Et puis comment c'est la première fois que j'entends le mot autiste? Et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et puis le fait de suivre une association et pas la suivre, parce qu'à l'époque, je pense pas qu'ils avaient imaginé qu'ils allaient faire un film un jour, mais ils la suivaient pour la suivre. Ils la suivaient dans son évolution. Ils la suivaient dans les questions que se posait la société aussi, mais l'idée du film, elle vient vraiment de 2015, mais je pense que Intouchables aussi, enfin Intouchables, quand ils font Intouchables, déjà ils sont inspirés aussi, on va dire un petit peu de l'association Le Silence des Justes, parce que il y a ce côté aussi au Silence des Justes, ce côté troc culturel.
Ouais.
On est tous ensemble pour une seule cause. On est déconnecté de l'actualité, déconnecté des religions, déconnecté de tout un tas de choses. D'ailleurs, plus rien ne nous intéresse. Et c'est vraiment vrai. Il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse, en fait, c'est que l'autisme. Et c'est que leur itinéraire et tous les progrès, les victoires qu'on a au fil des années qui font que on est heureux pour eux et puis on est heureux tout court.
Vous pensez que ce film a changé les mentalité ou le regard des gens sur l'autisme et les autistes, vous qui êtes souvent avec des autistes, même dans des lieux publics, ou est-ce que vous avez vu un changement après ce film?
Oui, il y a évidemment un changement. Et alors, évidemment, je pense que le Covid a arrêté un petit peu cet élan, parce que on faisait encore des avant-premières, même un peu à l'étranger avec Eric et Olivier. Et finalement, le 11 mars, oui, alors ça a apporté quelque chose de très positif tout de suite. Pendant le Covid, parce que ce qui s'est passé pendant le Covid, nous on avait une petite réunion avec le Conseil de la Santé Publique et un service de pédopsychiatrie, c'était celui de Sainte-Anne, pour traiter de la question de l'autisme pendant le premier confinement. Et effectivement, l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France a travaillé avec nous. On a créé des séjours pendant, en plein Covid, donc pendant le confinement, pour les enfants qui ne pouvaient pas être maintenus au domicile avec toutes les difficultés que ça pouvait avoir. Et en même temps, on a fait des séjours post-Covid, et ça, c'était très important de la part des pouvoirs publics. Et ça, je pense que l'impact du film, hors norme aussi, a réussi à sensibiliser. Et heureusement, c'est venu à pic, parce que je ne sais pas si on serait occupé des enfants post-Covid qui avaient besoin chacun de prendre un peu de repos, et les parents un peu de répit aussi. On a quand même fait du 22 juin au 31 août quelque chose de vraiment hors norme, encore une fois, c'est qu'on a pu travailler avec 256 familles, donc 256 enfants qu'on ne connaissait pas, qui étaient autistes, et on leur a offert 3 semaines de vacances. Donc tout ça en lien avec la direction régionale de l'Agence régionale de santé, donc de l'ARS de Paris, Île-de-France. Et c'est vrai qu'on s'en occupe beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi des pouvoirs publics. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de prise de conscience des pouvoirs publics, c'était aussi le cheval de bataille d'un des points de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Mais j'ai envie de vous dire, il manque des places. On sait faire. On a une prise en charge très qualitative. On parle du diagnostic précoce. Aujourd'hui, on parle à 2 ans et demi. On parle de la prise en charge précoce. Nous, le plus petit, il a 3 ans. On accompagne à l'école. Donc ça enraye un petit peu le développement du syndrome autistique. Ça ne sera pas les mêmes adultes plus tard. Mais au niveau qualitatif, on y est. Mais au niveau quantitatif, on voit qu'aujourd'hui, on est encore appelé pour des urgences, exactement comme il y a dans le film, et où il faut travailler vraiment sans arrêt encore.
Il y a aussi un débat souvent dans le cinéma, qui est comment représenter, par qui faire jouer les personnes, alors que ce soit autistes ou en situation de handicap. Parce que parfois, c'est joué par des acteurs qui n'ont pas ces problèmes-là. La force du film, c'est aussi ça, c'est que finalement, c'est des enfants autistes qui jouent des enfants autistes. Ça, c'était important et déterminant pour vous ?
C'était important, et puis c'est un impact. En fait, quand vous jouez un rôle, vous pouvez très bien le jouer, mais si c'est des personnes qui jouent leur propre rôle, et surtout dans l'autisme, c'est mieux. Et ça, c'était important aussi. C'est un gros travail. Je pense qu'Éric et Olivier, ils connaissent parfaitement bien l'autisme hein, maintenant. Mais ils ont pu aussi manager et faire des castings avec aussi une partie de nos populations qui ont joué dans le film. Mais c'était un travail. En fait, Vincent Cassel, qui joue mon rôle, a vraiment travaillé le personnage, qui est le directeur donc, d'une structure, et l'éducateur aussi en même temps, parce que le directeur fait beaucoup de terrain. Et je pense que c'est un moment qui est très important, parce que c'est des acteurs qui découvrent finalement l'autisme et qui sont restés attachés à ça. C'est-à-dire, c'est pas un film qui a disparu, c'est un film qui est là, qui peut avoir une autre vie. Hein. Il va passer sur TF1, il est passé sur Canal avec 2 millions de téléspectateurs encore. Je pense qu'on a besoin d'inclure l'autisme chez nous, chez vous, chez tous.
Et le film y aide, évidemment.
Ouais,
merci
énormément.
Beaucoup. Stéphane Delabou, d'être venu dans Clap aujourd'hui, fondateur de l'association Le Silence des Justes. Si on veut vous aider, j'imagine qu'un site internet...
Oui, bien sûr.
Tout le monde peut aller voir.
Bien sûr. Et rendez-vous le 2 avril pour la Journée mondiale de l'autisme. On est en campagne.
2 avril.
Donc voilà, 2 avril 2021.
Bon, c'est
merci
noté.
À Europe 1.
Merci d'avoir
beaucoup.
Été dans le studio de Clap aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour le questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est François Morel qui va nous raconter ses grands souvenirs de cinéma et ses souvenirs qui ont jalonné un petit peu son parcours cinématographique. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. C'est l'heure maintenant du questionnaire Les films de ma vie, une personnalité qui répond à des questions autour de ses souvenirs de cinéma. Aujourd'hui, c'est François Morel qui a accepté de jouer le jeu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, humoriste évidemment, et vous venez de publier deux livres, l'un qui s'appelle Le dictionnaire amoureux de l'inutile et l'autre Tous les marins sont des chanteurs. On retrouve tout ça chez Calman Lévy. Première question, François Morel, quel est votre premier souvenir de cinéma ?
Je crois que la première fois que je suis allé au cinéma, c'était au cinéma, est-ce que c'était Le Viking ou Le Palace ? C'était l'un des deux, à Flair de l'Orne, et c'était pour voir la cuisine au beurre. Parce que mes parents allaient systématiquement voir les films avec Bourvil. Bourvil, c'était vraiment l'acteur de proximité. Et là, donc je ne sais plus, c'est début des années 60, 63, 64, je ne sais pas trop. Et c'est un film avec Fernandel et Bourvil.
Bonjour, monsieur. La vache bouillabaisse, hein, ça, c'est de l'histoire ancienne. Depuis plus de 10 ans, c'est la seule normande ici.
C'est qu'on mangeait bien ici. Le patron, c'était un chef.
Un chef? Si on veut.
Comment si on veut? Et sa cuisine. Et sa bouillabaisse. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse?
C'était des boîtes.
Des boîtes? Sa bouillabaisse? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez.
Ah oh, non. Je ne me permettrai pas d'insulter un mort.
Votre séance de cinéma la plus dingue
C'était un film de Mel Brooks, Frankenstein Junior, vu à Londres dans les années 70. Et je me souviens surtout, je ne comprenais pas tout parce qu'évidemment le film était en anglais, donc il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. Mais c'est la première fois que je découvrais l'acteur Marty Feldman. Qui était quand même incroyable, une tronche pas possible. Et je me souviens surtout des éclats de rire des Anglais. J'avais jamais vu une salle rire à ce point-là. Et c'était dingue et formidable.
Docteur Frankenstein.
Frankenstein.
Vous vous payez ma tête, hein ?
Non, mon nom se prononce Frankenstein.
Je vois.
Je suppose que vous êtes Igor.
Non, ça se prononce Igor.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma, François Morel
Je dirais la sortie de l'usine Lumière à Lyon.
Ah.
Parce que ça devait être extraordinaire de voir ces premières images-là, quoi, d'être tellement fasciné. Vraiment, le premier sens. Enfin, voilà, la magie du cinéma, là, elle l'opérait complètement.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Peut-être un film de Tati, mais dans Mon Oncle ou dans Jour de Fête. Bah, c'est un monde tellement réinventé, un monde burlesque, et c'est assez tendre aussi. Il y a un côté, Jour de Fête, ça date des années 40. C'est un jour où il y a une fête au village. Plein de personnages existent autour de Monsieur Hulot, et c'est un univers inventé, tendre et très drôle.
le film culte que vous n'avez jamais vu, François Morel ?
Eh ben, j'ai jamais vu Star Wars.
Ah bon ?
C'est incroyable, non ?
Je sais pas comment vous avez fait pour y échapper.
Bah, je sais pas.
Maître Yoda, vous avez survécu.
Surpris, vous êtes ?
Le côté obscur de la Force va enfin pouvoir se déchaîner.
Mais il faudrait que je le voie. C'est pas que je veux pas le voir, hein, c'est que je sais pas, ça s'est pas trouvé. Au départ, c'est pas le genre de film qui m'attire spécialement. Et donc, j'ai laissé passer. Et voilà. Mais je vais essayer de le voir avant de mourir.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer, François Morel.
Bah, j'ai jamais honte quand j'aime. Même si c'est un nanar pas terrible et tout ça. Mais il y a plein de films que j'aime bien juste pour le plaisir de voir des comédiens. Je sais que, il y a des films avec Paul Prébois, Darry Cole, des choses comme ça. C'est pas formidable artistiquement, mais ça me fait tellement plaisir de voir les acteurs que je n'ai pas de honte à les regarder.
La plus belle scène de cinéma, selon vous, François Morel ?
Ah, je sais pas. Dans les lumières de la ville, quand l'ancienne aveugle reconnaît Chaplin, waouh, ça c'est l'une des plus belles scènes du cinéma et qui à chaque fois m'émeut.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette scène, François Morel ?
Ah, je sais pas, c'est les personnages sont d'une grande pureté et puis l'histoire est bouleversante. Il y a aussi une sorte de perfection dans la mise en scène qui est extrêmement émouvante.
Et en parlant de mise en scène, est-ce que vous avez un réalisateur ou une réalisatrice préférée ?
J'aurais adoré travailler avec Chabrol. J'aime beaucoup son esprit. Peut-être que dans les cinéastes de la nouvelle vague, peut-être que c'est celui dont je me sentirais le plus proche. Enfin, j'en sais rien, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, j'aurais vraiment aimé le connaître, celui-là. Parce que je pense qu'il avait un sens de la vie et de la fraternité qu'on ressent dans ses films. Puis je trouve qu'il a fait quand même quelques chefs-d'œuvre.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami, François Morel ?
J'hésiterais entre deux films que j'adore et qui racontent presque la même chose. C'est Tandem de Patrice Lecomte, que j'adore. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et aussi La fin du jour avec Michel Simon et Louis Jouvet. C'est une tristesse absolue. Ça se passe dans une maison de retraite de vieux artistes. Et Michel Simon est absolument prodigieux. Il a rêvé toute sa vie de jouer une scène de théâtre et il en a la possibilité et il va rater son coup. Et Louis Jouvet est un ancien séducteur qui se renvoie des lettres d'amour qu'il avait reçues 40 ans avant. C'est drôle, c'est déchirant, c'est un film que j'adore.
Un artiste, c'est merveilleux. Quelle belle vie tu as dû avoir.
Ça pour une belle vie. Seulement voilà, je ne jouais jamais. Dans les grands théâtres, les grosses vedettes ont toujours une doublure, des fois qu'elles tombent malades. Eh bien, moi, toute ma vie, j'ai doublé quelqu'un qui n'était jamais malade. Il avait une santé de cheval, l'animal. Alors, moi, je ne jouais jamais, tu comprends ?
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi ?
Je sais pas, je lui conseillerais d'aller voir Maloute de Dumont. Parce que ça, j'ai pas aimé.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ?
C'était comme une démonstration pour montrer comment les acteurs professionnels sont tellement plus mauvais que les gens qu'on prend dans la rue. Ça m'a gêné. Je n'ai pas trouvé le projet formidable. Et puis ça, non. Et en même temps, j'ai dit ça et en même temps, je me souviens du film et je me souviens de certaines images que j'ai trouvées très fortes, et notamment visuellement. Mais globalement, j'ai trouvé la plupart des acteurs principaux très mauvais. Voilà.
Et pour terminer, François Morel, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie ?
Ah ben, je choisirais bien la musique des 400 coups de Truffaut, En plus, Truffaut a dit du mal de son compositeur et de cette musique-là, et je trouve qu'il a tort, parce que c'est une très jolie musique. Je trouvais que Jean Constantin était un merveilleux mélodiste, et en plus c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui était un type de scène qui était un peu jazzman et qui avait aussi une telle singularité quand il chantait ses chansons que j'adore. J'adore le personnage.
Merci beaucoup, François Morel, d'avoir accepté de jouer le jeu de ce questionnaire de Proust version cinéma dans Clap. Merci François Morel. Je rappelle vos deux dernières actualités. Ce livre, Le dictionnaire amoureux de l'inutile, et cet autre livre, Tous les marins sont des chanteurs. On retrouve tout ça chez Calman Lévy. Merci.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, votre émission cinéma. Le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et on va débattre des films sortis sur vos plateformes ou en DVD, VOD, notamment The Dig sur Netflix, Les Vétos sur OCS, La Bonne Épouse sur MyCanal et The Personal History of David Copperfield sur Prime Vidéo. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils ont pris place autour de la table dans ce studio de Clap. Marilyn Le Tertre de Madame Figaro, Thierry Chaise du magazine Première. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors évidemment, les salles restant fermées, on va débattre des films sortis sur vos plateformes ou en DVD, VOD. Il sera question aujourd'hui de The Dig sur Netflix, des Vétos avec Lovis Cornillac sur OCS, de l'histoire personnelle de David Copperfield sur Prime Video et de La Bonne Épouse sur MyCanal avec Juliette Binoche. Mais d'abord donc, The Dig, la grosse production de la semaine, maintenant on peut quasiment dire ça puisqu'il y en a une par semaine, de la plateforme Netflix.
Monsieur Brown est archéologue.
Je travaille sur des sites de fouilles depuis que je suis en âge de tenir une truelle.
Est-ce donc, selon vous ?
Dieu du ciel ! Le haut Moyen-Âge se révèle enfin à nous.
The Dig, qui est porté par Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James notamment, s'est adapté du roman de John Preston, Nous sommes à l'orée de la guerre, en 1939 en Angleterre. Une riche veuve, qui est jouée par Carey Mulligan, donc, engage un archéologue amateur, c'est Ralph Fiennes, pour exhumer une sépulture dans son vaste jardin. Il se met au travail et à force de creuser, alors vous savez comme les archéologues, hein, parfois au pinceau, parfois avec sa petite pelle, eh bien, il met à jour un ancien navire funéraire. C'est un trésor d'une valeur inestimable. Évidemment, ça attire les convoitises, notamment celle du British Museum qui veut s'emparer de cette découverte, alors que dans le ciel, les avions de combat commencent à survoler le site. Marilyn Le Tertre, The Dig. Oula, j'aime pas ce regard.
Pas du tout, pas du tout. C'était un regard de réflexion.
D'accord.
Non, The Dig, j'ai trouvé ça au contraire très très beau. Et beau au sens premier du terme, parce que c'est vraiment un film d'esthète.
Oui.
C'est un film virtuose. On pense un peu à Malick dans la façon qu'il a notamment de filmer les paysages et les grands espaces. Et puis, c'est aussi intéressant ce que ça raconte, parce qu'on nous raconte qu'en fait, en fouillant le passé, c'est comme ça qu'ils apprennent à apprécier le présent, le moment présent. Il faut savoir, et là je ne spoile rien, que le personnage principal, cette veuve, est condamnée par la maladie. Donc, elle vit ses derniers instants, voilà, avec son fils. Et il y a cette relation d'amitié qui se tisse avec cet archéologue amateur qui est joué par Ralph Fiennes, ou Fiennes. J'avoue, ne pas trop savoir.
Ça dépend si vous avez l'accent ou pas.
et pour le coup, on ne joue pas du tout. Il n'est pas question d'une histoire d'amour, notamment, je pense que c'est important de le dire, mais d'une histoire d'amitié, ouais, de respect et de solidarité aussi. Et voilà, et moi j'ai trouvé que tout ce que le film racontait, la façon dont il l'a raconté avec cette mise en scène qui est absolument magnifique, voilà, on faisait une très très jolie production Netflix pour le coup.
Une nouvelle fois, parce qu'on dit ça régulièrement hein, maintenant, ouais. C'est un très beau film Netflix. Prime Vidéo. Thierry, vous souscrivez, The Dig ?
Totalement. Et moi, ben je voilà. suis tombé vraiment aussi pleinement sous le charme. Voilà, quand on dit des films classiques, parfois c'est un mauvais terme. Et là, ça correspond parce que
sur la forme,
ce classicisme est assumé à tout point de vue. C'est-à-dire que sur la forme, sur la manière de courir cette histoire, qui prend son temps sans qu'on s'ennuie, mais qui ne va pas chercher à faire du faux suspense. Comme l'a très bien dit Marilyn, il n'y a pas non plus cette vraie fausse histoire d'amour, cette ambiguïté. Donc on est du coup assez déstabilisé. Il y a cette manière, comme ça, en creusant le passé, les personnages, évidemment, eux-mêmes, leur passé remonte à la surface. Puis il y a deux formidables interprètes. Vraiment, Carey Mulligan, alors c'est une éducation, drive, voilà. À chaque fois, moi, elle m'épate par tout ce qu'elle arrive à traduire en donnant l'impression de ne rien faire. Et donc, elle correspond parfaitement à ce qu'est ce film, qui, une fois encore, s'impose à vous comme si vous ne l'aviez pas vu venir. Non, c'est vraiment un très, très beau film.
Eh ben, dites donc, The Dig, voilà, c'est à voir sur Netflix. On va changer complètement d'ambiance parce que je voulais aussi qu'on parle des Veto qui étaient sortis en salle. Pour être honnête avec nos auditeurs, moi, en tout cas, j'avais pas le droit de le voir à l'époque en salle. Maintenant, ça arrive sur OCS et je vous propose un petit extrait.
Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique.
C'est quoi ces conneries, Michel ? Je suis pas veto, je suis chercheuse.
Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pains, les enfants qu'ils ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure.
Mais je suis pas psy, moi.
Si, ça fait partie du boulot.
Alors, nous sommes au cœur du Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez Nico, qui est joué par Clovis Cornillac. C'est le dernier vétérinaire du coin. Évidemment, il compte pas ses heures. Il enchaîne les visites. Il y a sa clinique à faire tourner. La famille aussi, dont il faut un petit peu s'occuper de temps en temps. Lorsqu'un jour, son associé, qui s'appelle Michel, lui annonce qu'il prend sa retraite. Mais pas de panique, Michel a tout prévu. Sa jeune nièce, Alexandra, 24 ans, c'est Noémie Schmitt, est là pour prendre sa suite. Problème, Noémie Schmitt n'était pas vraiment au courant. Elle n'entend pas du tout de cette oreille. Alors, déjà, pourquoi viendrait-elle s'enterrer dans ce trou paumé ? Qui plus est à s'occuper d'animaux dont elle se fout complètement ? Évidemment, vous me voyez arriver, tout ce beau monde va s'entendre, et c'est parti pour une belle petite histoire. Thierry !
Et vous avez oublié une question, c'est pourquoi ce film, en fait ?
Oh non, voilà, ça c'est...
Non mais, là vraiment, vous avez tout raconté sans le raconter, c'est-à-dire que...
Ah bah oui, on a compris au bout de 3 minutes.
Tout ce qui va se passer.
Mais c'est pas désagréable.
Et on le fait... Voilà, où on a l'impression que tout le monde est venu tranquillement, voilà, prendre cash. C'est pas désagréable, c'est plein de bonnes intentions.
Oui.
Voilà, la qualité, c'est que c'est plein de bonnes intentions. Sur un sujet similaire, il y avait eu Médecin de campagne, Thomas Lilti, où d'un seul coup, un truc qui pouvait être aussi banal au départ prenait un peu d'ampleur. Là, on va pas s'embêter à ça. On va rester. On va gérer ça en bon père de famille. C'est un placement. C'est comme un livret A, quoi. En fait, voilà, on assiste à un livret A au cinéma et à partir de là, voilà, vous ne perdez pas d'argent, vous n'en gagnez pas non plus.
Dites-moi un petit mot gentil des Veto.
Bah ouais, moi je pense que après un épisode de Louis la Brocante, ça peut être pas mal.
Et pire que moi.
Non, alors plus sérieusement.
Attendez, faut aussi être honnête. Nos auditeurs qui ont des enfants, vous savez,
non,
des enfants, ils ont
leur
âge, ils aiment les animaux. Bah, vous les mettez devant ça ou vous regardez ça avec eux, c'est pas désagréable.
Non.
Oui, on sait au bout de 2 minutes ce qui va se passer. Oui, c'est tout mignon, tout gentil. Oui, il y a le petit rebondissement au moment où on attend qu'il y ait le petit rebondissement. Certes.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous.
Merci.
C'était juste pour taquiner un peu. Mais effectivement, c'est loin d'être désagréable. Ça se regarde en famille, avec les enfants, je sais pas, mais avec des jeunes ados peut-être.
Oui, c'est ça.
Mais effectivement, les sentiers sont... ultra balisé, le jeu est ultra balisé, la mise en scène est quasiment inexistante.
Rien n'est grave, alors.
Et bien sûr que ce n'est pas grave, ce n'est pas déplaisant. Déjà, c'est pas grotesque, on prend pas non plus les gens complètement pour des imbéciles. Bon, bah voilà, si c'est ce qu'on recherche en regardant un film, pourquoi pas.
En tout cas, si dans la chambre de vos enfants, il y a des posters au mur d'animaux, de chevaux, etc.,
voilà.
Eh bien, je suis sûr que vous passerez un bon moment avec eux. Arrêtez votre snobisme,
c'est
les deux.
C'est un très bon argument.
Les Veto sur OCS. On a aussi parlé de The Dig sur Netflix dans un instant. L'histoire personnelle de David Copperfield et La Bonne Épouse sur My Canal. À tout de suite sur Europe 1.
Clap.
Et c'est la dernière partie de Clap, votre magazine cinéma, tous les samedis sur l'antenne d'Europe 1. Je suis toujours en compagnie de Marilyn Letertre, de Madame Figaro, de Thierry Chaise de Première. Après avoir parlé de The Dig et des Veto, je voulais qu'on dise un mot de l'histoire personnelle de David Copperfield qui débarque sur Prime Video.
Ah, bonjour. Voici le jeune Copperfield, un nouveau.
Quelle opinion vous faites-vous de Hip ? Il est un peu surprenant, je dirais.
Surprenant ?
Il tortille sa bouche comme un lézard curieux.
Oui, c'est tout à fait cela. Développez, mon ami.
Il se tient si près qu'il est plus collant qu'un vêtement trempé de sueur.
Oui, vous êtes aussi cinglant qu'un coup de fouet. Vous me plaisez.
Bienvenue.
Alors, c'est adapté du célèbre livre de Dickens. On est en Angleterre, en pleine période victorienne. Le jeune David Copperfield grandit dans une famille aisée. Mais très vite, il se retrouve orphelin. Son méchant beau-père l'envoie donc travailler à l'usine, à Londres. Et il découvre un monde, il faut bien dire, qu'il ne connaît pas vraiment, celui de la pauvreté, de la misère. C'est le début d'une série d'aventures rocambolesques. Mais grâce à sa gentillesse et sa malice, David Copperfield va faire de multiples rencontres. Des gens de toute classe sociale qui vont lui tendre la main et lui permettre de s'en sortir pour devenir un brillant écrivain. Marilyn.
Eh ben, j'ai trouvé ça plutôt plaisant parce que à la fois il y a une fidélité totale à l'écriture de Dickens, mais tout ça avec une mise en scène et une interprétation ultra moderne. Donc c'est hyper énergique, notamment Dev Patel qui donc joue David Copperfield. Dev Patel, pour les gens, c'est l'acteur de Slumdog Millionnaire. Hein, il en a fait d'autres depuis, mais on se souvient surtout de celui-ci. Donc on passe un bon moment. Et puis dans la modernité aussi, il y a le casting, parce que c'est un casting de la diversité. Aucun rôle n'est défini par une couleur de peau dans ce film. Et déjà, si ça peut donner une bonne impulsion et des idées à des producteurs, réalisateurs qui se disent que Shakespeare, Dickens ou Zola chez nous doivent être joués que par des blancs, eh ben non. Eh ben non, pas du tout. Et ce film en est la preuve, c'est extrêmement bien interprété, les seconds rôles sont formidables. Je pense à Hugh Laurie, donc le Dr House, ou à Gwendoline Christie, qui était l'actrice de Game of Thrones, Brienne dans Game of Thrones. Voilà, donc on passe un très très bon moment. C'est à la fois classique et moderne, et ça fait beaucoup de bien.
Et, Thierry
et c'est une bonne entrée, justement, dans l'œuvre de Dickens,
Thierry,
je pense.
Acquiescé.
Ah ouais, moi je me suis mais vraiment régalé.
Ah, à ce point-là, c'est encore...
Ah, je me suis régalé parce que vraiment, l'idée... d'adapter Dickens aujourd'hui, on se dit bon, on a déjà vu, ça va être le téléfilm BBC un peu augmenté. Aux commandes, c'est le réalisateur d'In the Loop et d'une série de Philip K. Dick qui était vraiment spécialiste de la satire politique. On se dit, qu'est-ce qu'un spécialiste de la satire politique va aller faire dans un récit aussi classique? Et bien ce qu'il fait, c'est qu'en effet, il respecte Dickens, mais il pousse toutes les situations vers l'absurde. Ça pourrait être tragique, ça devient absurde. Et que, alors on peut se dire, oui, mais du coup, ça enlève un peu le côté politique de la chose. Pas du tout, le côté politique, c'est justement de donner ses rôles à des gens de toute diversité sans qu'on y fasse allusion dans un dialogue, avec un naturel absolument total. Et donc, il marche sur ses deux pattes, le film, et ça fonctionne. Moi, je trouve que Dev Patel n'a jamais été mieux, et que je n'ai pas vu passer ces deux heures-là. C'est réjouissant. Voilà, réjouissant.
Eh bien, dites donc, l'histoire personnelle de David Copperfield, si là, vous n'allez pas voir ça sur Prime Video, je n'y comprends plus rien. Quatrième et dernier film dont on débat, les amis, ça s'appelle La Bonne Épouse. C'était sorti en salle avant, ça nous paraît déjà très lointain, le premier confinement. C'était ressorti à la fin et avant le deuxième confinement, et ça débarque finalement sur MyCanal. Extrait.
Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes.
Les quoi?
Les féministes. C'est qui?
Les femmes qui veulent être les égales des hommes.
Oh, vous faites de nous des boniches, comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre.
Alors, je vous propose de revenir une cinquantaine d'années en arrière. À l'époque, figurez-vous, existait un petit peu partout en France des écoles ménagères où des jeunes filles venaient se former pendant 2 ans pour devenir de bonnes épouses. Alors, il y avait 7 piliers. Pour faire de vous, mesdemoiselles, la perle des ménagères, un rêve pour vos futurs époux. Je cite Paulette Van der Beek, c'est le personnage de Juliette Binoche qui dirige l'une de ces écoles ménagères. Sauf que Paulette se retrouve veuve du jour au lendemain. Le vent de mai 68 lui souffle dans le dos, ses certitudes vacillent. Son premier amour, joué par Edouard Baird, revient dans la boucle. Et c'est parti pour une comédie sociale, légère, dansée et chantée à certains moments, notamment à la fin, Marilyn.
Bon, alors, on va commencer par ce qui fâche, parce que vous venez d'en parler. Cette fin, quel dommage. Parce que dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé le film plutôt sympathique. C'est un récit d'émancipation assez jubilatoire. Ce qui marche très très bien, c'est le trio féminin, parce qu'on ne parle que de Juliette Binoche, qui fait cette veuve qui s'émancipe.
Mais
Yolande Moreau, qui en vieille fille romantique est absolument magique. Et Noémie Lvovsky, qui fait une sœur qui, a priori, est très psychorigide, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Et ce trio est absolument formidable. Et finalement, moi, je le retiens davantage que le duo avec Edouard Baird, que je trouve un tout petit peu moins réussi. Et puis, ce que ça raconte aussi de la condition des femmes à cette époque...
Il y a 50 ans,
c'était hier, finalement. Et on se dit que, comme quoi, le progrès est possible, car il y en a déjà eu beaucoup... Donc, il est possible d'en faire encore. Et voilà. Et pour le coup, j'ai trouvé le film assez sympathique. J'ai passé un bon moment jusqu'à cette fin qui, pour le coup, vire dans le grotesque et que moi, je n'ai pas compris.
Moi, je ne l'ai pas compris, mais je n'ai pas pour autant pas apprécié. Thierry ?
Alors, elle est catastrophique. Non, mais la comédie musicale, en fait, c'est un métier à tout point de vue, à jouer et à mettre en scène.
Il faut expliquer qu'en gros, ils partent vers Paris avec une espèce de 4L, ça danse dans les champs.
On ne va pas tout spoiler non plus pour les gens.
C'est comme le passage artistique, ça a l'air simple quand c'est fait par des professionnels et quand c'est fait par des amateurs, ça tombe à plat. Moi, alors, j'ai un vrai problème avec le film. Je trouve que toutes les intentions et les ambitions du film sont là, mais qu'il manque un metteur en scène capable de transformer ce qui est un film sympathique en autre chose. Jouer avec les clichés, c'est extrêmement compliqué. Et je trouve que par sa réalisation, il n'y arrive pas totalement. On voit ce qu'il veut faire, on voit où il veut aller, on voit où les comédiens vont, parce que ça tienne. Et il y a quelque chose dans sa réalisation qui fait que par moment, on reste scotché au cliché et que le film n'atteint pas cette dimension, pour moi, dont on sent qu'il veut aller là. Donc, on passe évidemment un bon moment, et je suis en tout à fait d'accord que c'est vraiment plus un film de femme. Moi, j'adore Edouard Baird, mais là, c'est un personnage qu'on a vu, revu, et qui a dû... On a envie de voir ces femmes ensemble, en fait. On a dès qu'il y a un personnage masculin, mais... Voilà, c'est comme si vraiment il manquait une cinquième vitesse à un film voilà, qui reste scotché aux quatre vitesses de ces années-là.
C'est une 4L, donc
voilà. Mais ça reste néanmoins sympathique.
Voilà. La bonne épouse sur MyCanal. Notez bien, on a aussi parlé de l'histoire personnelle de David Copperfield sur Amazon, des vétos sur OCS et de The Dig sur Netflix. Les amis, merci Marilyn Letertre, Madame Figaro.
Merci.
Thierry Chesse, première avec le nouveau numéro, avec à la une Jodie Foster.
Exactement.
Et une longue interview. Allez découvrir ça dans vos kiosques. Merci à Nicolas Baudin qui réalise cette émission. Marjorie Adelson qui la prépare. Émission que vous retrouvez en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine, 14h, 15h. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1.